Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Hello. Ravi de vous retrouver pour une semaine au micro de l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Comment gagner sa vie en vendant des journaux? L'équation n'est pas nouvelle, mais elle prend une tournure intéressante aux États-Unis. Alors que les recettes de la publicité sont en baisse et que le papier se vend de moins en moins, le New York Times affiche une bonne santé insolente grâce à ses abonnés en ligne. D'ailleurs, le journal ne communique plus ses chiffres papier. On dit merci qui? Merci Donald Trump. Le président américain passe son temps à cogner sur les médias. On se souvient du montage vidéo dans lequel il tabassait CNN. Trump s'en prend aussi à la presse écrite, à longueur de tweets, et il semble que cette guerre profite à tout le monde. Trump gagne en popularité dans son camp, mais la presse riposte à coups de scoop et de révélations. Le New York Times notamment se pose en vigile de la présidence américaine. Ce modèle économique fondé sur un président anti-média peut-il tenir longtemps?
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter avec Dorothée Barba.
Bonjour Adam Nociter.
Bonjour.
Correspondant du New York Times en France, lauréat du prix Pulitzer. Une question avant de parler de ce modèle économique de la presse. Quelle est l'actualité française du week-end qui a attiré votre attention ou qui a mérité un papier dans votre journal américain?
Alors moi j'ai fait deux papiers ce week-end pour le New York Times sur l'actualité française. D'abord, j'ai écrit quelque chose sur la loi immigration et asile, qui nous intéresse beaucoup aux États-Unis. Ensuite, j'ai fait un papier sur les nouvelles dispositions sécuritaires qui ont été avancées par Monsieur Edouard Philippe, le Premier ministre. Donc il y a ces deux choses-là. En général, je crois que les Américains s'intéressent beaucoup à la présidence Macron, qui est perçu comme une sorte anti-Trump.
C'est le contraire.
Et c'est le contraire. Et aussi, puisque c'est un président activiste qui fait bouger les lignes, qui bouge, et ça nous intéresse toujours.
La tournée américaine de Marion Maréchal Le Pen la semaine dernière, son passage devant le Congrès conservateur américain, son fameux « Make France Great Again », est-ce que ce discours a été remarqué ou commenté aux États-Unis?
Je ne peux parler que dans mon propre journal, et j'ai remarqué qu'on a bien couvert cette réunion de National Conservative Political Action, quelque chose, et on a consacré à peu près deux lignes à l'intervention de Marion Maréchal Le Pen. On a constaté le fait qu'elle était là, mais on n'a pas couvert son discours.
Deux lignes, dont acte.
Deux lignes à la fin du papier.
On va reparler de Trump et de l'état de santé de la presse américaine, hein, puisque c'est pas sans lien. Dans quelques minutes, Adam Nociter, ce sera juste après la chronique de Cyril Petit. Bonjour Cyril.
Bonjour Dorothée.
Rédacteur en chef au Journal du Dimanche, passionné par la presse écrite. Les grands formats dans la presse française, c'est terminé. On verra pourquoi avec vous. D'abord, un coup d'œil à l'actu des médias. Le 20h s'est échappé de la télé, c'est par cette formule que démarre le JT sur Le Média, la chaîne fondée sur Internet par des proches de Mélenchon. Eh bien, il s'échappera désormais sans la présentatrice Aude Rossigneux, limogée. Dans une lettre publiée samedi, la journaliste se dit assommée par la violence et la brutalité de cette éviction. Une brutalité, écrit-elle, qui serait peut-être un sujet pour Le Média si elle était le fait d'un Bolloré. Voici ce que disaient Sophia Chikirou et Gérard Miller, cofondateurs du Média, le mois dernier chez Ruquier.
Mais on va pas la licencier. J'espère qu'elle va progresser comme vous et que comme vous, elle mettra moins de 10 ans.
Ah merde, moi j'ai été viré, c'est dégueulasse. Ah c'est ça, on vire pas alors.
Les socios ne virent pas, je ne pense pas. Je pense que c'est pas l'état d'esprit.
Réaction hier dans les colonnes du Monde du même Gérard Miller. Ce n'est pas un licenciement, mais la fin de la période d'essai d'Aude Rossigneux. Le psychanalyste précise que l'ambiance est bonne au sein de la rédaction d'ailleurs, car dans sa lettre, la journaliste remerciée décrivait une rédaction au bord du burn-out. Le président du CSA remplacé pour raison de santé, Olivier Schramek, sera indisponible pendant plusieurs semaines, précise le Conseil supérieur de l'audiovisuel. L'intérim est assuré à partir d'aujourd'hui par Nicolas Curien, doyen des membres du Conseil. Le CSA qui doit nommer dans moins de deux mois le nouveau patron ou la nouvelle patronne de Radio France après la révocation de Mathieu Gallet et celui ou celle de France Média Monde après l'annulation du mandat de Marie-Christine Saragosse. Période un peu chargée.
I wasted everyone's time.
You know, I wasted everyone's money, I wasted everyone's everything, and I feel bad.
Mais oui, ça va mal. Figurez-vous, c'est à peine croyable que Kylie Jenner, la sœur de Kim Kardashian, n'aime pas la nouvelle version de Snapchat. On s'en fiche, oui, mais la jeune femme qui est, comme sa sœur et comme à peu près toute la famille d'ailleurs, une star américaine de télé-réalité, a fait part de cette déception sur Twitter. Dans la foulée, l'action Snapchat a perdu 6% en bourse et c'est ainsi qu'un simple tweet dans lequel la jeune femme se dit « so sad », tellement triste des changements intervenus dans l'application, eh bien ce tweet a fait perdre 1,3 milliard de dollars à Snapchat, c'est ce que révèle l'agence Bloomberg. Quelques heures plus tard, Kylie Jenner s'est fendue d'un autre tweet « je t'aime toujours mon Snap, mon premier amour ». On ne connaît pas le prix de ce petit mot doux. Et c'est donc une page de l'histoire de la presse française, cette fois, qui va bientôt se tourner. Dans un mois, le Républicain Lorrain va passer au format tabloïd, c'est-à-dire diviser sa taille par deux. Alors ça change tout, bien sûr, pour le lecteur à Metz et dans la région, mais c'est aussi un symbole important pour la presse française, Cyril Petit.
Oui, Dorothée, car le Républicain Lorrain est... était, dira-t-on bientôt, le tout dernier quotidien papier en très grand format. Alors ce format, on l'appelle le broadsheet, je le montre pour les auditeurs qui nous regardent, 55 cm sur 39 cm, c'est énorme. C'est celui historique des journaux, composé à l'origine d'une seule feuille recto-verso, des journaux taille XL, hérités du 19e siècle, qui ont longtemps incarné l'autorité. Ils avaient un contenu plus intellectuel que les concurrents plus petits. Mais ces derniers temps, ça change, les grands journaux se sont pliés en deux, les derniers à être passés au tabloïd, l'Équipe en 2015, L'Est Républicain en 2016, la Presse de la Manche au tout début de cette année. Pour le Républicain Lorrain, rendez-vous le 27 mars.
On se souvient, pour le lecteur de l'Équipe, c'était toute une affaire, une révolution, mais finalement, ils se sont habitués assez vite. C'est donc en tout cas une tendance lourde dans la presse. Il n'y aura plus que deux types de formats pour les quotidiens en France, désormais.
Oui, deux grandes familles. D'un côté, les Berlinois, comme Le Monde, Les Échos, Ouest France, La Provence. Ils sont vendus pliés. Alors la conséquence, c'est que sur la une, les titres les plus importants doivent être au-dessus du pli pour être visibles. Et puis, l'autre grande famille, les tabloïdes, comme Libération, Le Parisien, La Voix du Nord ou encore Le Progrès. Ils sont aujourd'hui les plus nombreux et s'autorisent des unes plus spectaculaires, moins bavardes. Mais sur le fond, les différences s'estompent. Historiquement, le mot tabloïd, au sens anglo-saxon, était associé à un traitement sensationnaliste, voire trash de l'information. Ce n'est plus le cas. La meilleure preuve, cette année, en Angleterre, le Guardian, un des plus sérieux journaux au monde, vient lui aussi de passer en tabloïd, ouais. C'était il y a un mois.
Le Guardian est un tabloïd, donc a priori, c'est plus tellement une insulte, hein, si j'ose dire. Alors pourquoi les journaux français basculent-ils vers ce format, Cyril ?
Pour trois raisons principales. La première est technique, c'est-à-dire qu'une rotative qui imprime déjà du broadsheet, ce grand format, peut imprimer du tabloïd, car il s'agit simplement de plier la feuille une fois de plus. Deuxième raison, sans doute la plus importante, il s'agit de faire des économies. Le prix du papier journal augmente très fortement, et ce n'est pas parce qu'on divise par deux la taille d'un journal qu'on multiplie par deux son nombre de pages. Et puis, avoir plus de pages dans un journal, ça permet d'avoir plus de pages de droite, des rectos comme on dit, qui sont les bonnes pages pour accueillir la publicité.
Alors,
Et puis une troisième raison, et c'est sans doute celle-là que valorisent le plus les éditeurs, il s'agit de s'adapter aux nouveaux usages des lecteurs. Ras-le-bol de jouer des coudes dans le bus avec l'équipe ou de faire de la place sur la table de la cuisine pour lire l'Est Républicain. Le tabloïd est plus maniable, plus pratique. Il facilite également la lecture du journal en numérique, sur tablette ou sur smartphone.
Alors ce qui est étonnant, c'est que la France est une exception à la matière. Le broadsheet, le grand format, est toujours très présent à l'étranger.
Oui, quelques exemples. La plupart des quotidiens allemands sont restés au broadsheet en Inde, où la presse papier se vend très bien, le grand format domine. Outre-Atlantique, il reste majoritaire. Le New York Times est toujours un grand format, alors plus très grand comme à l'époque notamment des Pentagon Papers, oui. on en parlera. Mais en tout cas, le New York Times est toujours un grand journal. Puis, petite spécificité aux États-Unis, on a aussi des grands journaux tout en longueur, tout en hauteur, on les appelle les demi-broadsheets, mais il ne faut pas les confondre avec le tabloïd.
Oui, alors broadsheet et demi-broadsheet vertical, ça commence à devenir un peu technique, votre truc. Bon, cette révolution de papier, en tout cas, elle n'empêche pas d'autres publications de voir très grand, et notamment en France.
Oui, alors le grand format permet aujourd'hui de faire l'événement. On l'a vu il y a 10 jours, Le Parisien s'est transformé en Le Grand Parisien. Oui. L'Union de Reims avait fait la même chose pour un numéro XXL. Et puis, quelques hebdos sont encore imprimés sur de grandes feuilles. C'est le cas du Canard Enchaîné, c'est le cas du Démocrate de l'Aisne, le dernier journal de l'Europe composée au plomb.
Ah, tiens.
C'est le cas du 1. Le 1 qui, cette semaine, alors attention, a même sorti un journal XXXXL.
Il le déplie, c'est spectaculaire.
Voilà, sa feuille unique, pliée en 16, mesure 1,20 m de long.
1,20 m, et d'ailleurs c'est 1,20 m pour le tigre de papier. Hein. C'est un hors-série consacré à Clémenceau. Éric Fotorino, pardon, le fondateur du 1, explique d'ailleurs que son hebdo, qui se déplie comme un poster, permet de faire des rencontres dans le bus et dans le métro, parce qu'on est obligé de déplier son canard sur les genoux du voisin. Merci Cyril Petit. Adam Nociter, correspondant du New York Times à Paris. Vous comprenez pourquoi la France fait exception sur cette histoire de format des journaux ? Vous êtes attaché, vous, encore au grand format aux États-Unis ?
Oui, mais il faut préciser que même chez nous, on n'est pas aussi grand qu'avant.
Ça réduit.
Oui, ça se rétrécit. Je me souviens du moment, il y a une dizaine d'années, quand le New York Times, par exemple, s'est amoindri d'une quelques 5-6 centimètres, et c'était un moment catastrophique pour moi personnellement, parce que j'étais tellement habitué à cette grande feuille qui nous accueillait tous les matins. Ça m'a semblé beaucoup diminué.
Là, les changements sont douloureux parce que la presse, c'est comme la radio, hein, c'est une histoire d'habitude.
Exactement.
Sans doute y a-t-il un lien à faire avec le format. Tenez, la semaine dernière, des associations américaines se sont payées une double page dans votre journal, hein, le New York Times, pour publier la liste des membres du Congrès qui avaient accepté de l'argent de la NRA, le lobby pro-armes à feu, publiée juste à côté d'une photo des lycéens en train d'évacuer l'établissement. Elle est spectaculaire, cette liste, parce que la page est très grande, Adam Nociter.
Oui, ça dit long sur l'influence du NRA sur le Congrès américain. Et c'est vrai que ce format-là permet une sorte de choc d'informations et de renseignements. Quand on publie comme ça en double page une telle liste, les lecteurs sont infailliblement confrontés à une vérité sans doute déplaisante.
Et la tuerie du 14 février en Floride prend toujours de la place aujourd'hui dans les journaux américains. Preuve peut-être que ce n'est pas la énième tuerie et qu'il y a une prise de conscience qui s'opère.
Oui, c'est vrai que cette fois-ci, peut-être les lignes vont bouger. On ne peut qu'espérer. Cette tuerie a été particulièrement affreuse et tragique, dramatique, et donc on ne peut qu'espérer que la puissance du NRA va pour la première fois fléchir. Et on voit ça, on voit des signes déjà des grandes sociétés qui abandonnent le NRA pour la première fois. Ça, c'est une signe prometteuse, à mon avis.
Alors, on la disait plutôt mal en point. Aujourd'hui, la presse américaine se porte pas mal. Le New York Times, quotidien dans lequel on lit vos papiers, Adam Nociter, compte désormais 2 600 000 abonnés en ligne. Ça ferait pas lire d'envie les patrons de presse français. Des abonnés donc qui lisent le Times uniquement sur Internet. La hausse est franchement spectaculaire. 42% de plus en un an. Et les abonnements représentent désormais 60% du chiffre d'affaires. Dans quelle mesure pouvez-vous dire merci à Donald Trump, Adam Nociter?
Dans très grande mesure, en fait. Monsieur Trump, avec ses mensonges continuels, a éveillé un soif, un faim pour la vraie vérité, pour le real news dans le lectorat américain, dans une partie de la population américaine. Ils ont soif de connaître la vérité ou ce qui approche la vérité. Et c'est ça notre promesse au New York Times, que on va renseigner nos lecteurs d'une manière fidèle et correcte et honnête, tout le contraire de Trump. Et d'ailleurs, La campagne publicitaire pour le New York Times en ce moment joue sur cette fake news. Oui, sur cette opposition. Donc, merci Monsieur Trump en grande partie. L'autre versant de l'histoire, c'est que nous avons su, je crois, accomplir la transition digitale à l'encontre de beaucoup d'autres journaux. On a beaucoup misé sur le digital depuis 10 ans et on a embauché toute une cadre de jeunes gens au New York Times qui sont très très habiles avec le digital, avec les nouveaux façons de présenter l'actualité dans, en mode digital. Et c'est pour ça qu'on a attrayé un lectorat pour la première fois très, très jeune.
La fin du papier est-elle inéluctable pour le New York Times ?
Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. On parle très peu de ça parce qu'on sait qu'il y a... D'abord, il y a les magasins, les publicitaires, les gens qui achètent la publicité, qui sont attachés, qui dépendent de la page imprimée. Ensuite, il y a un lectorat très fidèle à l'imprimé. Un lectorat certes qui est en diminution, mais qui existe toujours et qui se sentirait trahi si nous abandonnons le papier. Et d'ailleurs, la mentalité des journalistes au New York Times est toujours un peu axée sur l'imprimé. C'est-à-dire qu'on parle toujours chez nous de ce qui va faire la une, le placement des papiers sur la une. Est-ce que vous êtes bien placé ou non? Ça compte toujours pour moi et mes confrères.
Alors, ce qui est paradoxal, c'est que Trump aussi, il gagne dans cette guerre entre lui et les médias parce qu'il gagne en popularité dans son camp. C'est assez payant de se payer les journalistes. Est-ce que ce jeu-là n'est pas un peu dangereux? Est-ce qu'elle peut durer longtemps, guerre entre vous et la présidence américaine?
Je ne suis pas tout à fait sûr que je serais d'accord avec vous, parce que est-ce que Trump gagne? Ces chiffres ne le démontrent pas.
Il conforte une popularité dans son audience.
C'est exact. Il a 35% de la population. Un chiffre qui n'a pas varié, à vrai dire, au fil des mois. Ça ne croît pas, ça ne diminue pas. Donc, il y a cette base de 35%, et c'est inéradicable. Mais mon constat est que dans toute démocratie, il y aurait 35%, comme chez vous, les 35%, par exemple, qui ont voté Front National, qu'on ne peut pas éradiquer. Ça va perdurer. Les pertes de Trump en popularité sont beaucoup plus importantes.
Alors, on précise, on présente beaucoup le New York Times et le Washington Post en ce moment comme des machines à scoop. Il faut sans doute préciser que les enquêtes de la presse sont facilitées par les innombrables fuites au sein de la Maison Blanche. Nombreux sont ceux au sein de l'administration Trump qui sont ravis d'accabler le président en ce moment. Ça aide.
Ça aide. Je ne crois pas qu'ils sont nombreux, mais c'est sûr qu'il y a certaines à la Maison Blanche même qui s'effraient un peu de ce président. Michael Wolff nous a raconté cela, que la plupart des collaborateurs de Trump au sein même de la Maison Blanche sont convaincus que ce monsieur n'est absolument pas à la hauteur et qu'il représente une menace pour notre démocratie. Donc même à la Maison Blanche, il y a ces gens-là et ils nous parlent, c'est vrai.
Ils vous parlent beaucoup.
Beaucoup, tous les jours.
Un mot très très rapide sur Pentagon Papers, le film de Spielberg qui est toujours à l'affiche. Adam Nociter, vous faites partie de ceux que ça agace que ce film parle du Washington Post, votre concurrent, et pas du New York Times,
aucunement.
Votre journal?
Non, j'ai beaucoup aimé ce film, en partie pour des raisons personnelles, parce que je suis le fils d'un grand journaliste au Washington Post, donc j'ai grandi avec tous ces gens-là. Ce sont des noms avec lesquels j'ai passé mon enfance, et je trouve qu'ils ont été très bien pointés par le film.
Et Meryl Streep est fabuleuse dans ce film. Merci beaucoup Adam Nociter. Voici Ali Rebeyi. Bonjour Ali.
Bonjour Dorothée Barbara.
Grand bien vous fasse.
Bah oui, on s'intéresse ce matin aux allergies alimentaires. Est-ce que vous êtes allergique, vous?
Non, moi j'ai la chance d'être allergique à rien.
Bah vous avez bien de la chance. On attend vos témoignages au 01 45 24 7000 ainsi que vos questions.
Ce sera après les infos.